MCITV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine en notre compagnie. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'on ne t'a jamais dit sur l'évangélisation. Est-ce qu'il y a vraiment encore des choses qu'on n'a pas dites? Eh bien, on va voir ça ensemble avec Aurélie et notre invité de la semaine, le pasteur Steve Razier. Bonjour, bonjour à tous les deux.
Bonjour Aurélie, comment vas-tu?
Ça va très bien. Good.
C'est plus calme, hein. T'es tout de suite plus calme quand Frank n'est pas là. Hein. Ah. Oui, bonjour.
Aurélie amène cette paix, ce calme.
Hier, il était plié en deux avec Frank. Ouais. Comme quoi, hein. c'est pas la même ambiance quand il est pas là.
C'est Frank le problème.
C'est toi qui l'as dit, moi j'ai rien dit. Aujourd'hui, on parle d'évangélisation. C'est une suite de ce qu'on a partagé finalement hier. Oui. On a introduit le sujet, on a vu un peu la problématique. Et là, on va voir des solutions. Comment faire justement? On veut bien, ok, c'est mon mandat, on l'a bien compris. Ok, je dois évangéliser, mais je m'y prends comment? Quels sont mes outils? Comment je peux me préparer à ça pour ne pas être découragée après deux tentatives? Donc, on va parler de tout ça ensemble. Et Steve, c'est toi qui vas ouvrir le bal, oui, puisque tu vas faire notre pensée du jour.
Alors, avant de se lancer dans les solutions, peut-être juste dans la pensée, nous ramener sur l'évangélisation. Ce qu'on ne t'a jamais dit sur l'évangélisation, premièrement, ce n'est pas un département. L'évangélisation n'est pas ceux qui ne craignent pas de proclamer le salut dans les rues, dans les lieux publics. L'évangélisation, ce n'est pas d'amener quelqu'un à croire que Dieu existe. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais publié une publication sur Facebook qui avait fait beaucoup jaser. J'avais écrit ceci. Lorsque l'évangélisation devient un département, c'est que l'Église a perdu sa vocation. On a souvent associé l'évangélisation à un ministère pour ceux qui ont un fardeau particulier pour les âmes perdues. Ceux qui semblent un peu zélés, qui sont pas intimidés de parler librement de leur foi à des inconnus. Mais lorsqu'on regarde les Écritures, on peut voir que l'évangélisation, c'est plus que ça. L'évangélisation est un terme du dérivé de l'évangile, bien entendu, qui est traduit en grec par eugélion. Mais le terme évangélisation n'apparaît pas dans la Bible. C'est un terme qui a été employé au 14e siècle pour la première fois, mais qui parle justement de l'action de proclamer l'évangile à quelqu'un. On peut y lire, comme on l'a lu hier, que le commandement du Seigneur a été, dans Matthieu 28, d'aller faire des nations des disciples. Donc, cette action d'aller proclamer la bonne nouvelle, on l'a traduit par le terme évangélisation. Maintenant, trois questions que nous devons nous poser. C'est quoi? Pour qui? Et pourquoi? Alors, c'est quoi? Matthieu 28, 19, « Allez, faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » En d'autres mots, amenez quelqu'un à la connaissance de la mort et la vie en Jésus-Christ afin qu'il devienne un enfant de Dieu. C'est pas juste de dire qu'il y a un Dieu qui existe, mais c'est vraiment de l'amener à la compréhension de que Jésus-Christ est mort pour ses péchés et qu'il est maintenant mort avec Christ et ressuscité avec Christ pour être enfant de Dieu maintenant. Alors, deuxième raison, c'est pour qui? 2 Corinthiens 5, 18 nous dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés en Dieu, avec Dieu. Et donc on y voit ici le ministère que tout croyant a. C'est pour ça que ce n'est pas un département, ce n'est pas juste pour un type de personne en particulier, mais c'est pour tous ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ. On a une responsabilité, on a un ministère de réconcilier la création à son Créateur. Maintenant, il y a de ceux qui ont un appel d'évangéliste pour perfectionner les croyants à avoir ce fardeau pour les âmes perdues. C'est pas le rôle de l'évangéliste d'amener toutes les âmes au Seigneur, mais le rôle de l'évangéliste, comme les quatre autres dons, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur et docteur, est de perfectionner les croyants en vue de l'œuvre de leur ministère, qui est celui de la réconciliation de la création à son Créateur. Donc c'est une chose qui te concerne toi, qui me concerne moi, qui nous concerne. Nous avons une responsabilité devant le Seigneur d'amener quiconque à la connaissance de Christ. Et trois, pourquoi? Pourquoi est-ce un ministère si négligé si ça vient de notre responsabilité? On l'a un peu touché hier dans notre émission. Malheureusement, on a déresponsabilisé le croyant dans sa charge d'être ambassadeur de Christ et on a plutôt donné cette responsabilité à l'église locale le dimanche matin où parfois on va inviter les gens à l'église plutôt que de les inviter à Christ. Mais encore une fois, cette tendance a malheureusement affaibli le rendement de l'église glorieuse du Seigneur Jésus-Christ parce que maintenant on se doit d'attendre que quelqu'un soit convaincu par le message du pasteur. Mais imaginez si les 100, 200, 300 membres d'une église, 1000 membres, à chacun, eux, amènent quelqu'un à Christ, à quel point l'église se multiplierait et prendrait une croissance. Et c'est ce qu'on a connu à l'église primitive, où ce n'était pas une question d'un individu ou l'excellence d'un ministère qui amenait vraiment les gens à la conversion, mais c'était parce que le peuple était formé pour cette grande commission et qui amenait un bouleversement dans le monde. Donc, bien entendu, il y a le rôle de l'évangéliste, qui est un don de Christ, qui, lui, sa charge est de former. Et bien entendu, il a une grâce particulière, un fardeau pour l'appel qu'il a. Mais l'évangélisation est un ministère que Dieu a donné à tous ceux qui ont reçu le salut en Jésus-Christ. Alors, je t'encourage à répondre au ministère de réconciliation que Dieu nous a donné. Tu n'as pas besoin de connaître la Bible au complet. Tu n'as pas besoin d'avoir une consécration où tu as des révélations du troisième ciel. Mais si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ et tu veux participer à ce ministère de la réconciliation, sache que Dieu veut t'utiliser pour amener plusieurs à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ.
Merci Steve, merci beaucoup. Ah, on a un beau mandat, mais des fois on ne sait pas comment s'y prendre, comment fonctionner. Mais tu as dit quelque chose dans ta pensée qui est interpellant, tu dis... l'évangélisation, ce n'est pas faire croire aux gens que Dieu existe. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
En fait, c'est une expérience personnelle que j'ai eue où ce que parfois, si on s'arrête seulement sur Dieu existe, les personnes peuvent être ouvertes à la spiritualité et croire que c'est vrai, il y a quelque chose de plus grand que moi, sans accepter nécessairement le salut en Jésus-Christ. Donc, quelqu'un peut croire en Dieu sans nécessairement être un enfant de Dieu. Mm-hmm. Et c'est là que Jacques va nous le dire dans la parole, où ce que tu crois qu'il y a un seul Dieu, les démons aussi le croient et ils tremblent. Mm-hmm. Donc, ça ne suffit pas de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, mais c'est de recevoir et d'accepter le salut en Jésus-Christ, qui est l'intermédiaire justement pour notre salut. Donc, d'accepter la mort en Christ et la vie en Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. J'ai une expérience où ce que j'ai amené un couple au Seigneur et ça avait commencé avec l'époux et il a invité son épouse à venir à la maison pour une formation. Et pendant que j'expliquais la parole, j'ai commencé à prier pour elle. Et le Saint-Esprit l'a visitée. Elle a vraiment été remplie, elle a reçu une délivrance et par la suite, on a fait la prière du salut. Et elle a commencé à suivre son mari les semaines suivantes. Et après 2 semaines, je fais un enseignement où je leur dis que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par lui. Mm-hmm. Et elle me dit, non, mais je suis pas d'accord. Mm. Et donc là, moi, je suis surpris. Je dis, non, mais c'est pas vrai qu'il n'y a que Jésus. Les musulmans aussi, Dieu les voit, Dieu connaît leur cœur, et il y a d'autres religions. C'est pas juste les chrétiens qui hériteront des cieux.
Oh.
Et donc là, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Elle a versé des larmes, elle a vécu quelque chose,
oui.
Elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ, elle a accepté qu'il était mort pour ses péchés. Mais c'est là que j'ai réalisé que l'humanité n'a pas un problème avec le message d'amour de Jésus. Ils ont un problème à ce que Jésus soit le seul qui nous amène à Dieu. Parce que dans l'imaginaire du non-croyant, c'est comme une injustice. C'est comme si Dieu choisirait seulement les chrétiens. Mmh. Mais c'est de mal comprendre qu'est-ce que le salut en Jésus-Christ. Christ l'a payé de sa vie pour l'humanité, afin que quiconque croit. Donc, ça vient par la foi au sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, si on ne met pas une plus grande attention sur le seul chemin, vérité et la vie, plusieurs vont lever la main pour une prière du salut. Plusieurs vont vouloir ce sauveur pour combler leurs besoins, sans vraiment comprendre qu'est-ce que le salut en Jésus-Christ. Et donc, c'est là que l'évangélisation, c'est pas juste d'amener quelqu'un à reconnaître que Dieu existe, mm-hmm. mais plutôt de leur annoncer qui est Jésus-Christ et pourquoi qu'il a payé de sa vie à la croix pour nos péchés.
Effectivement, et ça enlève justement un petit mélange, parce que c'est vrai que j'ai presque envie de dire que ça peut être facile d'amener quelqu'un à faire la prière du salut. Et on pense que si tu as fait la prière du salut, ben voilà, c'est bon, le job est terminé, exactement. Tout est fait, c'est bon, c'est fini. Bon, c'est plus complexe que ça, effectivement. Mm-hmm. C'est une révélation, en fait, et Dieu passe au travers de nous pour amener cette révélation, pour que cette révélation puisse s'imprégner dans la vie de la personne, en fait. Donc, oui, on a ce rôle d'être ce canal, en fait, qui va apporter le message. Nous, on est le message, en fait. Mais je crois qu'une chose qui freine beaucoup dans l'évangélisation, c'est cette responsabilité de devoir nous-mêmes convaincre les gens et d'avoir les bons mots, les bons arguments et d'être capable de répondre à toutes les questions, de renverser toutes les façons de penser. Et donc, je devrais être un expert dans toutes les religions du monde pour pouvoir tout contrecarrer. Et je crois qu'on se limite beaucoup aussi à cause de cette façon de penser-là.
Hein. Oui, effectivement. Et aussi, parfois, on pense que c'est un « one time ». Donc je viens, je te parle, et puis tu dois accepter le Seigneur, et voilà. Mais dans l'histoire de Steve tout à l'heure, il dit 2 semaines plus tard. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a un temps, et c'est pas toujours tous les jours qu'on va venir parler à quelqu'un, et la personne va dire oui. C'est même pas tous les jours que tu pourras arriver à ce que quelqu'un comprenne que Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et a la vie éternelle. Parce que c'est tout ça, le salut. On parle de salut. Mm-hmm. Donc, c'est pas en un jour, forcément, que tu vas le faire. Mais quand on voit l'évangélisation comme toujours quelque chose de rue, bien sûr, on veut que ça se fasse tout de suite. Tu vois, mais il y a, dans notre environnement, les personnes avec qui on est, parfois, ça va prendre même juste que tu observes. Mm. Tu es dans l'évangélisation. Parfois, ça va te prendre de dire un truc, jusqu'à ce qu'au moment, tu sentes que le cœur est assez ouvert, pour que tu déposes tout ce qu'il faut, tu vois. Donc moi j'aimerais aussi, puisqu'on dit de donner des clés pratiques, qu'on soit pas coincé dans notre façon de penser. Oui, il y a des jours où tu vas sortir, une fois tu rencontres quelqu'un, Jésus a rencontré la femme samaritaine, il a des paroles de connaissance, et puis les choses se font tout de suite, et tout un village même est sauvé. Il y a des jours où tu vas comprendre que j'observe cette personne, je suis en train d'évangéliser. Je prie pour cette personne, je suis pas encore arrivé au moment où je parle à la personne directement, mais dans mon cœur, il y a un processus qui a déjà commencé jusqu'au moment où, ok, le cœur il est ouvert, là je peux déposer le message. Donc j'encourage les gens à ne pas se limiter dans leur vision, à avoir le cœur, parce que c'est aussi ça que Steve nous rappelle aujourd'hui, avoir ce cœur-là, chacun de nous, de ne pas attendre après une autre personne, mais de se dire, moi je suis un acteur aussi pour gagner cette âme-là, mais mon action ne sera pas forcément la même que celle de mon frère à côté. Le Seigneur va m'équiper en fonction de mes forces, de mes faiblesses, des choses, mais dans tous les cas, il faut y aller en fait. Il ne faut pas se restreindre, il faut le faire.
Ce que j'aime dans ce que tu amènes, Aurélie, c'est vrai que malheureusement, on a cette conception que la personne reçoit le salut lorsqu'elle fait la prière du salut. Mm-hmm. Et ça, c'est une grave erreur parce que, comme Evelyne, tu le mentionnais, notre rôle, nous, c'est de transmettre un message. Mm-hmm. Mais la conviction vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et je crois que le fruit du salut va venir à ce que la personne, maintenant, va invoquer le nom du Seigneur. Il y aura une transformation dans sa vie. Et donc, de pas faire l'erreur que je l'amène à répéter des mots qui va maintenant prouver qu'elle a reçu le Seigneur. Non, c'est mieux de, comme Aurélie le dit, de l'accompagner, continuer à l'enseigner. Et cette transformation-là va prendre place. Peut-être c'est aujourd'hui, peut-être demain, après-demain. Mais tout ça fait partie du cheminement vers le salut et de laisser la place au Saint-Esprit de convaincre la personne et de pas se faire accroire que parce qu'elle a répété la prière qu'on lui a demandé de répéter, mais le travail est fait, elle est transformée, elle vit un réveil dans sa vie, je peux passer à d'autres choses.
Exactement.
Donc, je crois que l'amour doit nous amener à les enseigner aussi qu'est-ce que le salut et les rites humains, comment prier, qui est le Père, les idées fondamentaux pour que la personne puisse commencer une démarche avec le Seigneur.
Tout à fait, et qui te dit que la personne, elle ne va pas se donner réellement au Seigneur toute seule dans sa chambre, en fait.
Tout à fait.
Parce que tu auras semé ces choses-là. Le fait de vouloir précipiter même le moment de la prière du salut peut même être mauvais parce que va faire croire à la personne, voilà, c'est bon, tu l'as atteint. Et donc la personne ne cherche plus réellement Dieu, ne cherche plus réellement à être sauvée. On va lui dire que c'est bon, c'est fait, elle va aller au ciel pour l'éternité. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça, et des fois on a mal fait les choses aussi de ce côté-là. Et je te propose, Steve, qu'on regarde notre verset du jour, puisqu'on en parlait tout à l'heure dans la loge, c'est un verset que tu voulais présenter, c'est Romains 10 au verset 14 et 15. « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Clairement, on voit ce mandat, cette responsabilité qui tombe sur nos épaules quand on lit ça.
Tout à fait. Et j'aime l'appeler, ce verset, j'aime l'appeler l'équation du salut. Mm-hmm. Parce qu'on voit vraiment une somme. On voit qu'on a été formé et on a été envoyé, commissionné, et notre envoi nous amène à prêcher, et notre prédication nous permet d'être entendu, et lorsqu'on est entendu, ça permet à la personne de croire, et lorsqu'il croit, il invoque le nom du Seigneur, et s'il invoque le nom du Seigneur, il est sauvé. Donc c'est une équation qui nous amène à le salut. Bien entendu, Dieu peut se manifester dans des songes, on peut pas le prendre sur une manière mathématique. Dieu fait ce qu'il veut, et il intervient de différentes manières, mais on y voit ici une équation. Mais dans cette équation, l'erreur que souvent on fait, c'est de croire que parce qu'on prêche, les personnes vont croire. Mm-hmm. Mais ce n'est pas ce que le verset nous dit. Le verset nous dit que si on prêche, ils entendront, et s'ils entendent, c'est là qu'ils vont croire.
Exact.
Donc, il y a une variable qui est importante, c'est ici d'entendre, de comprendre le message qui est prêché. Donc, c'est pas parce qu'on prêche que la personne croit. La personne croit si elle a entendu le message qu'on a qu'elle a compris du message qu'on a livré. Et donc, je crois que c'est important de savoir comment, on l'a dit un peu hier, de vulgariser cette révélation du salut et de ne pas juste citer un jargon, des versets, et la personne ne comprend pas. Et là, tout de suite, on lui pose la question, tu veux faire cette prière avec moi? Et là, la personne, bon, elle a rien à perdre, elle va le faire, mais
des
sans
fois,
comprendre
par
le message.
Gêne même, par peur de dire non,
tout
de
à
passer
fait.
La personne, ok, je vais répéter. Mais
et nous, on croit qu'on a fait vraiment l'œuvre de l'évangélisation. Et donc, je crois que c'est important qu'on se souvienne l'importance que la personne comprenne le message qu'on a prêché pour qu'après ça, la conviction peut venir et là, faire le travail que ça doit faire.
Oui. Et dans ce verset, tu parles de l'importance de la formation. Alors, c'est sûr que très souvent, ce qui va nous bloquer, ce qui va nous empêcher de témoigner, c'est des peurs. Toutes sortes de peurs. Et si tu me permets, Steve, je vais me faire le porte-parole de peut-être plusieurs téléspectateurs. J'ai peur de déranger les gens. J'ai peur de les mettre mal à l'aise, que ça crée un malaise. Cette collègue avec qui je m'entends si bien, on fait la pause repas toujours ensemble. Quand on discute, c'est super fluide. Si je commence à lui parler de Jésus, à lui parler du Seigneur, ça va créer un malaise. J'ai peur de déranger. Qu'est-ce qu'on peut répondre à des gens qui ont cette crainte-là?
Je crois que premièrement, c'est important. Souvent, la peur peut s'installer par un manque de formation. Donc, c'est tout nouveau, on comprend pas trop, on sait pas trop quoi répondre, et donc l'intimidation, la peur vient. Mais il faut se rappeler qu'Éphésiens 4, 11 et 12 nous dit que Dieu a suscité des dons à l'Église locale pour le perfectionnement des croyants en vue de l'œuvre du ministère. Donc, qu'est-ce que l'œuvre du ministère? On l'a lu dans 2 Corinthiens 5, 18. C'est l'œuvre de la réconciliation. C'est le ministère de la réconciliation. Et donc, si on commence déjà à être perfectionné, accepter d'être perfectionné, d'être formé pour maintenant l'œuvre du ministère. Trop souvent, le zèle, le sentiment nous amène à nous précipiter. Et parfois, il nous suffit d'une mauvaise expérience pour que là, la peur
s'installe. T'es découragé, après tu le
fais
plus. Hein.
Et donc, on doit faire attention à ne pas diminuer ou négliger la formation qu'on se doit d'avoir pour être mieux équipé pour l'œuvre maintenant de la Grande Commission. Après, je crois qu'il y a aussi une question de personnalité. Il y en a qui sont plus introvertis, d'autres... Et donc, moi, j'aimerais beaucoup mettre l'accent sur les relations plus que sur le ministère. Des fois, on a peur de parler à un inconnu. Mais avant de parler à l'inconnu, tu as une famille, tu as des amis, tu as des voisins, tu as des collègues de travail. Et donc, je crois que c'est par la suite, si Dieu te demande de faire un geste, là, on parle d'obéissance, c'est différent. Mm-hmm. Mais dans un ministère, un fardeau pour ceux qui n'ont pas encore le salut, je crois qu'on peut déjà, j'allais dire se faire la main, c'est pas qu'on veut pratiquer, mais déjà aller plus auprès de ceux qu'on connaît, ceux qui sont plus proches de nous, mm-hmm. et déjà on aura une plus grande facilité à discuter parce qu'on les connaît, on a une relation avec eux.
On enlève beaucoup de peur.
Hein. Exactement. Et même ceux qu'on connaît moins, parfois c'est mieux de commencer par apprendre à les connaître, avoir un fardeau pour eux, se soucier d'eux. Avant même de leur présenter le salut, on peut juste leur demander, est-ce que tu accepterais que je prie pour toi, pour ta situation, pour ton divorce, peu importe. Et donc, des fois, ce genre d'ouverture, la personne va sentir l'amour, va sentir la conviction et va vouloir même porter oreille sur les convictions de notre foi chrétienne.
Ben oui, parce que je crois que c'est vrai que ça peut bloquer à beaucoup de niveaux. Je pense que c'est ça, on se met beaucoup de barrières, beaucoup de peurs qui vont nous bloquer, qui vont nous limiter. Mais toi, Steve, tu nous disais hier que tu as été en contact avec la jet set aussi, des gens quand même qui sont connus, des gens parfois très instruits, etc. Est-ce que tu as des petits témoignages à nous partager, des extraits, des moments où en fait ça pourrait venir peut-être faire tomber certains raisonnements, certaines peurs qu'on peut avoir?
Encore une fois, je mets beaucoup d'importance sur ma formation. Mm-hmm. Donc, bien entendu, c'est pas juste venu comme ça par hasard.
Oui.
J'ai eu une formation, il y a eu un cheminement qui m'a amené à pouvoir être un peu plus à l'aise dans mm-hmm. ma sphère qui était les arts et médias pour communiquer le salut. Maintenant, on doit savoir que peu importe le milieu, plus c'est comment je veux dire, la lumière jaillit encore plus fort lorsqu'on est dans des milieux hostiles parfois. Et donc, dans un milieu ce qui est tellement axé sur l'amour de l'argent, l'amour du soi, le succès, l'orgueil et tout, c'est sûr que d'avoir un pasteur dans cet environnement-là qui a une intégrité, qui se respecte, qui a des vertus, des principes, tout de suite, les gens s'y intéressent.
Tu détonnes un peu, quoi.
Exactement.
Oui.
Et on serait surpris de voir que plusieurs nous montrent des sourires, qu'ils ont beaucoup d'argent, tout semble bien aller, mais il y a un profond désespoir et un profond manquement qu'ils vivent. Mmh. Et très souvent, lorsqu'ils sont en contact avec cette lumière, mais souvent les barrières tombent et ils sont plus sensibles justement à aller chercher sagesse ou prière ou conseil. Et donc, dans mes expériences, très souvent, j'ai rarement dû utiliser des versets ou une rhétorique, mais strictement avoir des relations avec ces gens-là. C'est des gens que... En fait, on serait surpris. Hein? Il y a des gens qui sont... qu'on dit non, en fait, des non-croyants mm-hmm. qui parfois nous fait beaucoup de bien dans notre vie et que peut-être des services qu'on n'aurait pas reçus au sein de frères et sœurs, mais que Dieu utilise des gens de l'extérieur mm-hmm. pour nous faire du bien. Et c'est le genre de relation que j'avais avec eux où ce que on pouvait parler librement, il y avait une vulnérabilité et très souvent ça amenait à de la prière, à des conseils. Ils connaissaient ma vocation, ils connaissaient ma foi mm-hmm. et donc très souvent je m'invitais à prier pour eux et de cette relation-là est venu un intérêt pour la foi chrétienne et très souvent c'est venu à des saluts en Jésus-Christ. Mm-hmm. Donc ça, c'est un... Je peux donner peut-être un témoignage court. J'étais en voyage d'affaires à Dubaï et à la sortie des douanes, la personne qui venait nous recevoir, vous savez, ceux qui sont à l'aéroport avec les enseignes, avec les noms des invités. Donc, je vois la personne avec nos noms inscrits. J'étais accompagné de l'un de mes clients. Et donc, la personne est un peu stupéfaite. Et donc on lui dit non, c'est nous, c'est bon. La personne nous dit ok, suivez-moi. Donc on rentre dans la limousine et lorsqu'on est dans la limousine, mon artiste me pointe un édifice et m'interpelle par mon titre vocationnel. Donc me dit regarde pasteur, tel édifice. Et donc la personne qui nous a reçus se retourne et dit vous êtes pasteur? Et donc je dis oui. Il dit ah c'est pour ça. Et donc dit qu'est-ce qui se passe? Elle me dit mais quand vous êtes sorti, il y avait une grande lumière autour de vous. Il y avait une gloire et ça m'a fait peur. Je savais pas c'était quoi, mais là je comprends. Vous êtes pasteur. Donc elle tout de suite, elle a fait une corrélation avec ce qu'elle a vécu. Et ça a ouvert la porte à ce que on puisse parler de la foi. Et donc je lui posais des questions sur sa famille. Êtes-vous marié? Vous habitez ici à Dubaï? Donc on parlait et elle va me dire qu'elle est fiancée. Et justement, elle aurait aimé que je puisse parler à son fiancé parce qu'ils ont quelques problèmes avant le mariage.
Oh.
Et donc
dans le ministère là tout de suite.
Tout de suite dans la limousine. Et donc, je leur donne rendez-vous à la fin du spectacle à l'hôtel. Mmh. Donc, elle me dit, parfait, je serai là à telle heure avec mon fiancé. Et donc, le spectacle fini, on va dans un grand hôtel à Dubaï et le rendez-vous est au sommet du gratte-ciel. Et donc, on va en haut et là, c'est la fête. La piscine, les filles en bikini, champagne, la musique. Et là, je vois le couple qui m'attend, qui me salue. Donc, je me rends vers eux et on s'assoit et je leur prêche le salut en Jésus-Christ. Mais là, oubliez pas qu'on est dans une ambiance de fou, là. Donc, on attend. Et là, la musique, les gens sautent, les gens dansent. Et là, la musique se fait aller. Et là, moi, je suis là, je dois crier. Je dis, oui, alors Jésus, il est mort pour ta vie. Voilà. Et là, je hurle pour annoncer le message. Et là, la musique se joue. Et les gens crient, l'autre saute dans la piscine et tout. Et après, je prends leur main et dis, laissez-moi prier pour vous. Vous recevez ce Seigneur, celui qui a... Et là, ils disent oui. Et là, je prie avec eux. Et là, je prie, je ferme mes yeux. Et lorsque j'ouvre mes yeux, ils sont en train de pleurer et le Saint-Esprit les a visités. Oh. Et c'est là que j'ai pu constater que il n'y a pas de... C'est pas le milieu, c'est pas l'entourage, c'est vraiment l'opportunité de présenter Jésus-Christ. Et à ça, le Saint-Esprit agit. Et donc, au sommet d'un gratte-ciel à Dubaï, dans une fête mondaine, le Saint-Esprit s'est manifesté et a touché un couple qui maintenant vivent et ont deux beaux enfants. Wow. Donc, c'est un témoignage qui m'a permis de voir que des fois, on peut être intimidé par le contexte. Mm-hmm. On se dit, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. Mais il n'y a pas de meilleurs endroits que là où Dieu veut visiter les gens. Peu importe, dans un taxi, à l'aéroport, dans un restaurant, au travail, peu importe les circonstances, lorsque l'accès, la disponibilité est et on annonce le Seigneur Jésus-Christ, Dieu se manifeste et touche des gens.
Excellent.
Et il y a Michael qui partageait quelque chose aussi qui peut aider les gens. Mm-hmm. Il disait qu'il avait fait ce songe-là, voilà, où le Seigneur lui montrait deux façons de faire parce que tout le monde peut être concerné par ça, en fait. Les gens seront toujours concernés par la vie éternelle, où est-ce que je vais aller après la mort. Et les gens aussi, lorsque tu leur partages juste ton témoignage de façon amicale, ça ouvre les cœurs. Donc, pour des personnes qui ont peur, qui se disent par où commencer, ben, ton témoignage, ça peut être un bon début en fonction du milieu dans lequel tu te trouves. Ou alors, il y a tout le monde, que tu sois très riche, très pauvre, il y a toujours ces questions au fond du cœur de l'homme pour savoir, mais après, qu'est-ce qu'il y a un après, qu'est-ce qui va se passer? Ça aussi, je pense que vraiment pour aider les gens qui veulent se lancer dans l'évangélisation, n'ayez pas peur. Ton témoignage, tu le connais, c'est ton histoire, personne ne peut te l'enlever. Vraiment. Et puis l'éternité, ben, tu en parles simplement avec des mots accessibles. Je pense que sur le plan pratique, ça aussi, ça peut beaucoup aider.
Tout à fait. Et je retiens une chose aussi de ce que tu as dit, Steve, c'est que les gens savaient que tu étais chrétien, les gens savaient que tu étais pasteur. Et mine de rien, juste ça fait que les gens, s'ils veulent avoir des réponses, s'ils ont des problèmes, des situations, ils vont savoir où se tourner. Des fois, on est des chrétiens incognito et je nous invite vraiment à, bah, bien sûr, ne pas avoir honte de notre foi, évidemment, mais de ne pas non plus
se tenir.
Tiens-toi comme un chrétien. Tiens-toi comme un chrétien, ça, c'est une autre émission. On en parle toujours dans Bonjour chez vous, on se tient bien. Mais vraiment, n'ayons pas peur de crier haut et fort qui nous sommes. En fait, sans en faire trop, mais que les gens sachent qu'on est chrétien, sachent que peut-être on est dans le ministère ou peu importe, mais que les gens puissent venir trouver des réponses aussi auprès de nous en cas de besoin.
Et de ne pas minimiser la formation, c'est important. Oui. Il y a quelque chose que les anciens vont pouvoir, avec des enseignements, nous permettre d'être encore plus à l'aise dans le ministère de réconciliateur qu'on a tous.
Tout à fait. Donc si votre église locale propose des formations, participez-y. Ce n'est pas réservé au département évangélisation. Il y a des livres qui en parlent. Il y a des formations parfois en ligne aussi. Des chaînes YouTube qui peuvent être excellentes aussi pour ça, mais que vous osiez en fait faire le pas et décider de vous former et de commencer à aller. Et c'est le mandat que le Seigneur nous a donné. On l'a vu hier, aller partout. Alors, allez-y, c'est le moment. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. Steve, un grand, grand merci d'être revenu sur le plateau de Bonjour chez vous, Steve.
Merci.
C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous.
Merci.
Et puis nous, on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.